Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous de nous suivre régulièrement sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très peu connu, c'est celui de la coercition reproductive qui inclut le furtivage, qui est l'action de retirer le condom à l'insu de sa partenaire. J'ai avec moi en studio trois expertes qui vont nous aider à comprendre ce phénomène qui est assez courant mais très peu connu. Il s'agit de Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Catherine Rousseau, coordonnatrice du projet Relations, contraception et reproduction au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM, et Carole Boulebsol, auxiliaire de recherche également au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, je suis très heureuse de vous avoir à cette émission, ben, premièrement pour nous aider à comprendre ce que c'est la coercition reproductive. Mais tout d'abord, avant tout, vous êtes des femmes. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes intéressées à ce projet, mais à la coercition reproductive. Donc, j'aimerais d'abord, Sylvie, vous entendre là-dessus.
Alors, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là? C'est ça la question, Marjorie?
Oui, tout à fait, oui.
En fait, parce que c'est une forme de violence qui n'est vraiment pas suffisamment documentée, qui demeure trop tabou. Et donc, moi, de ma formation en sexologie et en santé publique, c'est un champ de recherche, en fait, que j'entrevoyais et dans lequel j'avais le goût de plonger pour documenter ça un peu mieux et pour que nous, les femmes, on puisse être... mieux informée sur ça, mieux sensibilisée.
D'accord, parfait. Donc, Catherine?
Oui, ben moi, j'ai travaillé beaucoup sur la violence sexuelle dans mon parcours, donc à la maîtrise et tout ça, puis je savais que je voulais travailler vraiment sur les questions de violence faites aux femmes, et ça fait déjà quelques années que je travaille avec Sylvie, et toute cette dimension-là de la violence qui s'applique particulièrement à la sphère sexuelle et reproductive, je trouvais que c'était peut-être un angle de recherche moins exploité, puis en fait, j'ai vraiment eu envie de m'impliquer dans le laboratoire, de poursuivre les travaux qui avaient été faits dans cette direction-là, justement, pour visibiliser cette forme particulière.
D'accord. Et vous, Carole?
Alors, un peu comme Catherine, je travaille avec Sylvie dans le laboratoire depuis plusieurs années sur des projets de recherche inhérents à la violence faite aux femmes. Et Sylvie m'a proposé de contribuer comme auxiliaire, justement, à ce projet-là, puisqu'il rejoint mes intérêts à la fois en intervention et en recherche sur la problématique des violences faites aux femmes. Et ce qui me plaisait aussi dans ce projet, c'était l'aspect partenarial et le fait qu'on s'intéressait vraiment à l'expérience rapportée par les premières concernées, à savoir les femmes qui ont été victimes de coercition reproductive.
OK. Donc, maintenant, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Donc, dans la définition, hein, pour nos auditrices et auditeurs, c'est quoi la coercition reproductive? Alors, Sylvie?
Oui. Bien, la coercition reproductive, c'est une forme de violence, donc qui limite l'autonomie reproductive des personnes. Ça veut dire que ce sont des gestes, des attitudes, des paroles, disons, qui vont être émises ou mises en place par le partenaire intime pour limiter les choix reproductifs. Donc, par exemple, ça peut être des pressions pour contraindre la personne à devenir enceinte alors qu'elle ne le veut pas, des menaces pour qu'elle mette fin à une grossesse alors qu'elle désirerait la poursuivre, ou alors du sabotage contraceptif. Vous en avez parlé un peu plus tôt, le furtivage, on pourra y revenir, mais ça pourrait être, par exemple, de saboter les contraceptifs oraux, de retirer le patch, donc le timbre contraceptif pour que la personne, la femme, n'ait pas accès à sa contraception et ne puisse pas prévenir des grossesses non désirées. Donc, c'est ça, la coercition reproductive. Dans le cadre des travaux du laboratoire, on l'a étudié jusqu'à maintenant principalement dans le cadre d'une relation intime, donc de couple hétérosexuel. Mais il faut comprendre que ça peut être exercé par la famille, la belle-famille, ou aussi par des institutions. Pensons ici au Canada, aux exemples très flagrante de stérilisation forcée sur les femmes autochtones.
Oui.
Ce sont des violences gynécologiques, mais ce sont aussi des formes de coercition reproductive, puisqu'on décide, à la place des femmes, qu'elles ne pourront pas devenir mères ou redevenir mères de nouveau.
Mm-hmm.
Donc, ce sont un ensemble de comportements, en fait, je dirais, qui limitent les choix reproductifs.
OK. Puis la coercition reproductive est toujours faite par une tierce personne. Sur la personne. Donc, alors, c'est toujours soit l'environnement ou le partenaire, parce qu'on va plus loin que le partenaire à ce moment-là.
Oui, effectivement. Nous, c'est ça. Pour l'instant, et dans le cadre de nos travaux, c'est ça. On s'est vraiment concentré sur les dynamiques relationnelles. Donc, dans le cadre d'une relation avec un partenaire engagé, donc un partenaire de plusieurs années, mais aussi des relations plus éphémères, parce que ça peut aussi se produire dans ce contexte-là. Et là, on va parler surtout de furtivage. Nous, on va être honnête avec vous, Marjorie, on préfère le terme de retrait non consensuel du condom.
Ouais, okay.
En fait, je trouve que ça explique peut-être plus clairement ce que c'est. Donc, il y a vraiment une entente qui a été prise entre les partenaires pour se protéger, pour utiliser un condom, et là, le partenaire va le retirer à l'insu de la partenaire. Donc, nous, on va utiliser ça.
On vulgarise plus, on comprend plus que furtivage. Parce que le thème aussi en anglais, c'est ce qu'on dit, le stilting.
Stilting, oui.
OK.
Oui.
Donc, finalement, qui est...
C'est ça. De retrait, de ne pas être là.
C'est
donc,
ça, oui. J'aimerais savoir, est-ce que cette forme de coercition, est-ce qu'elle a une couleur, une classe sociale? Oui, alors?
On sait qu'il y a des facteurs de risque qui exposent certaines femmes davantage à un risque de vivre de la coercition reproductive. Cela étant, j'ai envie d'être prudente pour des données au Canada, au Québec. Nous, on a de la difficulté à rejoindre les femmes dans une diversité, je dirais. Mais ce qui est certain, c'est que dans les données notamment américaines, on observe des disparités entre, par exemple, des femmes afro-américaines et des femmes blanches. Les premières rapportant davantage d'épisodes de coercition reproductive que les secondes, avec une plus grande fréquence et une plus grande sévérité rapportée. Un autre exemple que je peux donner, tiré d'une recherche de Holliday et ses collègues, à partir d'un sondage longitudinal qui avait été administré à plus de 1300 femmes, c'est qu'il y avait une association significative entre l'appartenance à un groupe ethnique minoritaire et le fait d'avoir vécu de la coercition reproductive. On sait aussi que la précarité financière constitue un obstacle à la planification des naissances, à la contraception, etc. Donc, il y a des facteurs de vulnérabilité. Mais par rapport au Canada, j'aurais de la difficulté à vous donner une réponse très affirmative ou très sourcée pour le moment.
Puis, au niveau des chiffres, est-ce qu'on a des chiffres?
On en a quelques-uns, en fait. Pour des raisons qu'on ignore, cette problématique quand même importante n'a pas été documentée ici au Canada. Peu de gens s'y sont intéressés. Dans le cadre du projet qui nous relie en fait aujourd'hui, on a eu la chance d'interroger autour de 450 personnes, 450 femmes. Et dans le fond, on a pu constater qu'il y avait effectivement une prévalence un peu plus importante que ce qu'on croyait. Donc, j'ai pour vous quelques chiffres. Par exemple, une femme sur quatre a rapporté avoir été victime de stilting, donc le retrait non consensuel du condom, au moins une fois dans sa vie. Donc, une sur quatre, c'est pas banal. On sait aussi qu'il y a 10 % des femmes qui ont fait l'objet de menaces de la part du partenaire pour qu'elles se fassent avorter. Donc, une sur 10. Qu'est-ce qu'on a? 3 % des femmes ont fait l'objet de menaces pour qu'elles deviennent enceintes de la part du partenaire alors qu'elles ne le voulaient pas. Donc, évidemment, les comportements qui sont, je vous dirais, qui renvoient à la contraception sont plus présents que ceux qui surviennent plus tard, disons, lorsqu'il y a déjà une grossesse. Donc, on voit quand même un peu comme une pyramide inversée, en quelque sorte, où les éléments de sabotage contraceptif sont un peu plus prévalents, plus présents, et les gestes de coercition lors de la grossesse ou tentative de contrôler, dans le fond, la grossesse, sont un peu moins fréquents. Mais quand même, quand on parle d'une femme sur 10, c'est pas banal.
Oui, oui. Et si je peux ajouter, les prévalences qu'on a pour le moment sont vraiment dans le contexte de la relation intime. On n'a pas beaucoup, en fait, on n'a aucune donnée sur la coercion reproductive qui se passe d'un point de vue plus institutionnel, disons, comme on a parlé tout à l'heure avec la violence gynécologique, violence obstétricale, qui peut aussi être comprise comme de la coercion reproductive. Donc, l'exploration du phénomène est vraiment au début. On a très peu de données au Canada avec l'étude qu'on est en train de mener. On va bientôt publier. Ce sera probablement les premières données qu'on a ici au Canada. Okay.
Puis, donc, est-ce qu'on a déjà un peu de données sur les groupes d'âge ou... C'est pendant la période de fertilité ou
oui,
est-ce
exactement.
Qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, en fait, à partir du moment où on peut devenir enceinte, ben il y a des possibilités qu'on soit victime de coercion reproductive. Donc, nous, on l'étudie jusqu'à 55 ans, donc de 15 à 55 ans, en fait, ce phénomène-là. Mm-hmm. Donc, personne n'est à l'abri réellement.
Oui, oui. Puis la plupart du temps, ce que les femmes nous rapportent, c'est des événements qui ont eu lieu, somme toute, quand elles étaient jeunes. Donc, soit on rencontre des femmes relativement jeunes, donc de 25 ans et moins, qui nous rapportent des événements qui se sont passés relativement récemment, ou bien on rencontre des femmes plus âgées, mais là encore, qui ont tendance à davantage nous parler d'événements qui ont eu lieu lorsqu'elles étaient assez jeunes. Et quand on parle de furtivage ou de retrait non consensuel du préservatif, du condom, eh bien là encore, c'est davantage des jeunes femmes qui vont nous parler de ça. Les autres formes de pression, notamment sur le fait d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, sans que ce soit la volonté de celle qui le portera. Mon sentiment, c'est que ça peut arriver un peu plus tard, un peu comme disait Sylvie.
Donc, c'est déjà le temps d'une petite pause, puis on va revenir dans quelques minutes.
Elle ouvre les yeux et regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Il lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première. La première crise, si c'est vrai, tu ne lèves jamais la main. Tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux. Évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux. Mais en attendant de subir le feu. Il continue dans son déni, il dit qu'ils vont de l'avant. mais ça c'est bientôt fini. Prête à partir pour mettre fin à la guerre. Et lui restera libre et fier. Pour une envie si humaine, d'avoir voulu être libre. Toujours à elle qu'il s'en prenne. Le danger demeure et les brise. Espérant qu'il n'y aura pas de prochaine. C'est toujours ça d'espérer. Qu'on n'ait pas chanté de requiem.
Je suis de retour avec mes invités, Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'UQAM, Catherine Rousseau, coordonnatrice du projet Relations, contraception et reproduction au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et la violence à l'UQAM, et Carole Boulepsol, auxiliaire de recherche également au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et la violence à l'UQAM. Donc, ma première question, ce serait de savoir que dans vos recherches, dans ce que vous avez travaillé, vous avez certainement parlé à des hommes, OK? Comment se justifie-t-il? Est-ce que vous avez parlé à des hommes? Donc déjà...
Alors non, on n'a pas rencontré d'hommes, okay, pour le sujet de la coercion reproductive. Mm-hmm. Cela dit, on a quand même un peu accès aux intentions perçues du point de vue des femmes qu'on rencontre.
Oui.
Donc on a rencontré beaucoup de femmes à travers les années, à travers les projets, qui peuvent finalement avoir un doute sur l'intention derrière le geste.
Mm-hmm.
Et donc la coercion reproductive, si on s'intéresse au sabotage contraceptif ou même au furtivage, disons, oui, les intentions sont un peu différentes. On parle beaucoup on parle entre nous de négligence contraceptive, mm-hmm, ou vraiment un désintérêt ou une absence de considération en fait pour la santé sexuelle, oui, des femmes. Donc ça, c'est ce qui pourrait motiver, selon les femmes qu'on rencontre, là, le geste de furtivage, de retrait non consensuel du condom, je devrais dire. Mais quand on pense à la pression liée à la grossesse et à la coercion lors de la grossesse, qui sont, mm-hmm, deux formes assez distinctes là, de la coercion reproductive, on voit que en fait, ça se produit dans des contextes de violence conjugale beaucoup. Donc c'est, mm-hmm, une autre forme de violence qui est exercée à l'égard des femmes, qui s'inscrit finalement aussi avec des comportements de violence économique, de violence, mm-hmm, psychologique, etc. Donc à ce moment-là, c'est un peu différent. Puis les femmes nous nomme aussi ces enjeux de contrôle, de manipulation et de, oui, violence qui ont cours dans, oui, leur relation.
Mm-hmm. Je lisais que c'était quand même considéré comme une forme d'agression sexuelle. Donc, mais la majorité des femmes ne le vivent ou ne le comprennent. Ils ne le comprennent pas comme ça. Donc, alors, comment qu'on peut arriver à faire en sorte que ça soit vulgarisé? Puis moi, je parle aussi, c'est sûr que je vous ai posé la question, est-ce que c'était quoi le point de vue des hommes là-dessus? Mais comment qu'on peut faire aussi pour que les hommes puissent prendre conscience aussi que c'est une forme d'agression sexuelle? Le mot le dit. Donc, qu'est-ce qu'il existe pour sensibiliser ces femmes-là?
Oui, c'est une excellente question. En fait, je voudrais seulement mentionner aussi que ça fait pas si longtemps que ça au Canada, oui, que c'est reconnu comme une agression sexuelle. Hein. Mm-hmm. Il y a quelques années, le sabotage contraceptif avait été reconnu comme une forme d'agression sexuelle. Donc, il y avait, mm-hmm, un homme qui avait percé intentionnellement le condom dans le but de rendre sa partenaire enceinte, et elle avait déposé plainte et la Cour suprême avait statué que c'était une agression sexuelle. Et plus récemment, le retrait non consensuel du condom a aussi été reconnu comme une agression sexuelle. Mais on parle vraiment de décisions juridiques récentes et qui ne se sont pas encore répandues dans la population. Mm-hmm. Donc, effectivement, votre question précédente était tout à fait juste. Je pense qu'il va falloir s'intéresser à la perspective des hommes pour les sensibiliser. Parce que, comme Catherine le mentionnait, les plus jeunes hommes, je dirais, qui retirent le condom ne le font pas dans le but de rendre la partenaire enceinte.
Non.
Ils nient pour contrôler sa trajectoire reproductive. Ils le font pour accroître leur plaisir, mm-hmm, ils le font pour ressentir plus de sensations, mais ils le font aussi de façon très insensible, très, je dirais, égoïste,
oui,
aussi,
oui, oui,
sans réfléchir à ce que ce geste-là implique. Parce qu'évidemment, les femmes, elles se retrouvent avec tout plein de conséquences par la suite de ce retrait-là.
Mm-hmm.
Donc, il va avoir besoin d'importants travaux, je dirais, de sensibilisation, tant pour les hommes que pour les femmes, pour qu'on se rende compte, finalement, que ce geste-là est important et lourd de conséquences, mm-hmm, et est illégal. Je veux,
oui,
dire, c'est criminel,
oui,
de retirer le condom et de saboter la contraception de sa partenaire.
Mm-hmm. Si je peux ajouter un exemple, il y a beaucoup de femmes qu'on rencontre qui vont parler du retrait non consensuel du condom en l'oubliant, en fait. Donc, elles viennent nous rencontrer, elles nous parlent d'une situation en particulier, et là, elles vont ajouter « Ah, mais oui, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé plein de fois, c'est quasiment pas digne de mention, tellement que c'est devenu banalisé. » Donc, il y a aussi une prise de conscience à y avoir. Là, de plus en plus, on parle de l'attribution de la Cour suprême là, du fait que c'est une agression sexuelle. Je pense que ça contribue à la sensibilisation, mais il y a quelques années, on a commencé un projet, je sais pas, en 2015-2016, beaucoup de femmes nous rencontraient en minimisant ce qui s'était produit, puis en se disant, ben, je vais m'arranger, puis ça sera plus de temps, plus de ressources pour moi. Mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé, ça arrive à tout le monde.
Oui, ouais, parce que même moi, en lisant, lorsque j'ai vu que c'est une forme d'agression sexuelle, ça frappe parce qu'on dit, mais c'est tellement banalisé. Puis pendant que je préparais mon émission, j'ai posé autour de moi, à mes amis, et etc. Donc, la majorité des femmes ont subi ça.
Exact.
Sans savoir que c'est une agression. Alors, j'ai eu des discussions avec elle, mais elle dit, mais voyons, on l'a vécu, mais on l'avait pas vécu comme une agression sexuelle. Donc, alors, c'est très important. Puis, depuis, on en parle depuis combien de temps, en réalité, de la coercition reproductive? Est-ce que ça fait
alors,
quoi?
Nous, on a commencé nos travaux en 2016, mais initialement, on s'est beaucoup appuyé sur des travaux qui avaient lieu aux États-Unis.
Oui.
On peut retracer le début de ces publications scientifiques-là à 2010 environ,
mm-hmm.
Mais c'est vraiment dans un cadre scientifique. Ce phénomène-là n'est pas nouveau, évidemment, mais on le documente d'une perspective scientifique depuis environ 2010 et beaucoup d'une perspective états-unienne. De plus en plus, on explore ailleurs dans le monde aussi.
Oui,
voilà.
Ce que j'ai vu aussi dans mes recherches, c'est la Californie, je pense, qui reconnaît la coercition reproductive, mais comme une sorte d'agression sexuelle.
Ouais.
Mais les autres États n'ont pas encore emboîté le pas. Je vous écoute.
Non, mais je voulais ajouter qu'au Québec, plus proche de nous que les États-Unis, il y a aussi l'histoire de Chantal Daigle. Qui a été assez médiatisée et qui a mené justement à l'arrêt Morgan Taylor qui a mm-hmm. permis l'accès en fait à l'avortement. Et ce que vivait Chantal Daigle, c'était une forme aussi de coercition reproductive à l'intérieur d'une relation marquée par la violence conjugale, mm-hmm. avec un conjoint violent qui voulait exercer du contrôle sur la trajectoire reproductive, donc sur les choix de Chantal Daigle à l'effet de garder ou non ce fœtus, et qui voulait exercer donc un pouvoir sur sa décision et qui n'a pas pu le faire au final. Mmh. Donc, on peut imaginer, comme disait Catherine, que c'est récent, ça n'est pas du tout. C'est au cœur de luttes féministes, ici et ailleurs, depuis plusieurs décennies. Et c'est important de le rappeler. Donc, ce n'est pas parce que là, on en parle maintenant avec un certain terme que ce n'est pas quelque chose qui est ancré, finalement, dans nos cultures, dans nos mentalités, dans nos manières de penser aussi le corps des femmes et leur autonomie.
Mmh. Tout à l'heure, Sylvie, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que c'est pas lorsqu'il y a le retrait du condom, souvent les hommes le font par plaisir. Souvent, c'est pas une violence comme telle. Mais où je veux en venir, est-ce que lorsqu'on parle de coercition reproductive, est-ce que en majorité, c'est dans un milieu où il y a déjà une certaine violence?
À vrai dire, non. C'est un facteur de risque, c'est certain, okay. Le fait qu'il y ait un contexte de violence conjugale. Mais de deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ça peut être, comme disait Sylvie, des rencontres entre partenaires qui sont ponctuelles, mm-hmm. Une date d'un soir, comme on pourrait dire. Et je nuancerai le commentaire à l'effet que ce n'est pas violent, parce qu'en fait, c'est vécu aussi par certaines, au moment où ça se produit, comme une forme de violence, et c'est important de le rappeler.
Mm-hmm.
Donc, ça peut être par surprise, ça peut être par un comportement physique de domination. Et surtout, ce qui rajoute un degré à la violence, c'est que quand les femmes s'en rendent compte et, par exemple, confrontent l'homme qui vient de poser ce geste-là, eh bien, bien souvent, il n'y a pas une conscientisation qui s'opère chez lui. Il y a plutôt un retournement de la faute, t'exagères, il n'y a rien là, etc., etc. Et je pense que c'est important de le rappeler.
Mm-hmm. Et puis, il y a toute la suite aussi de l'anxiété, la colère, mais l'anxiété aussi de savoir est-ce qu'on a attrapé une maladie sexuelle aussi.
Mais les femmes qu'on rencontre nous en parlent beaucoup, en fait, mm-hmm. parce que cette anxiété-là d'avoir contracté une TS, une ITS.
Oui.
Dans ce cas-ci, d'avoir un risque de grossesse aussi, c'est tellement prenant. Puis il y a aussi beaucoup ce qui a été nommé, c'est un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir qu'on nous a manqué de respect. Et en fait, les conséquences qu'on est en mesure de documenter en lien avec le retrait non consensuel du condom sont pratiquement identiques à celles d'une agression sexuelle.
Oui.
Donc, les flashbacks, les cauchemars récurrents, c'est aussi présent dans ces situations-là.
La baisse d'estime de soi.
La baisse d'estime de soi, l'hypervigilance aussi. Là, ça, nous, effectivement, on a un parcours en sexologie, donc on s'intéresse beaucoup à la façon d'entrevoir ces relations intimes. Et les femmes nous disent que, ben, elles hésitent à rencontrer des nouveaux partenaires. Ça vient un peu bousiller leur vie de célibat ou de recherche de partenaires parce qu'elles craignent de se faire refaire le même coup.
Mm-hmm.
Donc, c'est assez à long terme, en fait, les conséquences qu'on peut documenter.
Mm-hmm. Puis, lorsque la femme... On va parler, Sylvie, je crois, du guide qui a été fait pour les professionnels. Mais avant tout, est-ce qu'il y a beaucoup de ressources pour une femme qui a vécu cela? Puis, c'est quoi le point de chute? Elle s'en va où en premier?
Oui. En fait, je pense que Carole avait réfléchi aussi aux ressources qu'on vous présenterait. Donc, je lui retournerai le micro.
D'accord. Carole, on va débuter et puis ensuite, on poursuivra avec une pause. Puis on va revenir avec le reste de la question. Mais je vous en prie, allez-y.
Alors, c'est une bonne question que vous posez. En fait, elle est un peu difficile à répondre dans le sens où la coercition reproductive, on a essayé de l'exprimer là, c'est un peu à la croisée de différentes problématiques. Violence sexuelle. Violence entre partenaires intimes, violence conjugale, violence institutionnelle, on en a peu parlé, mais il y a aussi des médecins hein, qui sont identifiés comme responsables de coercition reproductive de la part de femmes qu'on a rencontrées.
Mm-hmm.
Et donc, il n'y a pas de ressources à proprement parler où on pourrait dire « vous avez vécu de la coercition reproductive, allez à tel endroit ». Ce qui est important de se demander, c'est quel est le besoin de la personne. Est-ce que c'est de travailler l'aspect qui rejoint la violence conjugale,
mm-hmm.
la violence sexuelle? Est-ce que c'est d'avoir accès à des services de planification ou d'avortement, ou minimalement de conseil hein, quand on vit une grossesse qu'on n'a pas désirée, qui n'est pas planifiée, eh bien,
oui.
on a le droit d'avoir accès à des services gratuits et confidentiels. Et donc, dans ce sens-là, c'est plutôt vers ce genre de ressources qu'on pourrait diriger.
Diriger les femmes, d'accord. Bon, nous arrêtons pour une petite pause et puis de retour bientôt.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Toujours en compagnie de mes invités, Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'UQAM, Catherine Rousseau, coordonnatrice du projet Relations, contraception et reproduction au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM, et Carole Boulepsol, auxiliaire de recherche également au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM. Donc, un peu avant la pause, nous avons discuté du cas de certaines femmes, puis on a abordé durant la pause un sujet qui est très important. Carole, vous allez nous en parler, c'est les femmes qui ne peuvent pas avoir de ligature de trompe. Alors,
tout
allez-y.
À fait. Ouais. Si vous me permettez, j'aimerais juste compléter l'information que j'ai donnée sur les services, parce que je souhaite que si une ou plusieurs auditrices se reconnaissent, dans les exemples qu'on a donnés, qu'elle ne reste pas seule avec cette histoire et qu'elle puisse aller consulter en tout état de cause certaines ressources.
Oui.
Alors, j'aimerais juste rappeler qu'au Québec, on a de la chance encore. On a un bon tissu social grâce aux organisations communautaires, aux organisations féministes notamment, qui soutiennent les femmes qui ont vécu différentes formes de violence. Et je voudrais encourager celles qui en éprouvent le besoin à ne pas hésiter à contacter ces ressources, donc soit en violence conjugale, par exemple SOS violence conjugale, ou alors par rapport à des décisions en lien avec leur reproduction, le fait d'avoir ou non, de garder ou non un fœtus, notamment avec grossesse secours, si elles estiment avoir vécu une agression à caractère sexuel, qu'elles n'hésitent pas à contacter les CALAX, qui sont toutes des ressources à la fois confidentielles et gratuites, qui ne vont pas essayer de les influencer dans un sens ou dans un autre, mais qui vont essayer, dans la mesure de leurs moyens, de leur donner accès à de l'information pour qu'elles puissent prendre un choix éclairé et qu'elles puissent avoir un soutien adapté. Et je trouvais que c'était important de le dire, comme on le fait dans nos recherches d'ailleurs, on donne toujours accès à de l'information relative aux services pour ne pas laisser les femmes seules avec ce vécu, avec ces ressentis-là.
Tout à fait.
Je voulais juste le préciser, merci.
Merci, c'est très gentil. Donc maintenant, j'aimerais vous entendre sur les femmes qui ne peuvent pas avoir la ligature des trompes. Donc.
Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup parlé du retrait non consensuel du préservatif. Comme on l'a dit, il y a aussi d'autres formes de coercition.
Oui.
Dans les femmes qu'on a rencontrées, plusieurs, c'est une minorité dans notre échantillon, mais somme toute, ça mérite d'être rappelé, ont rapporté avoir vécu des obstacles lorsqu'elles demandaient à des médecins, notamment, à avoir une ligature des trompes. Lorsqu'elles exprimaient leur souhait de ne jamais devenir mère et de ne jamais être exposées au risque d'une grossesse non souhaitée. Et ces femmes-là nous ont rapporté avoir vécu à plusieurs reprises des refus, de la pression pour qu'elles ne se stérilisent pas elles-mêmes, je ne sais pas comment le dire dans d'autres mots. Et elles l'ont vécu vraiment comme une infantilisation, comme une contrainte à leur liberté aussi, à leur autonomie reproductive. Et plusieurs d'entre elles ont été ensuite exposées justement à des grossesses non voulues et donc à des interruptions volontaires de grossesse qu'elles auraient souhaité ne pas avoir. Alors je trouve que c'est important de le rappeler aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de la sensibilisation des hommes.
Oui.
Eh bien, je nous inviterai aussi à sensibiliser les médecins, les infirmiers, les infirmières qui sont à même de pouvoir répondre aux questions et, si possible, de soutenir les femmes dans la réalisation de leurs choix, quel que soit leur choix.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Sylvie, si vous pouvez nous parler, justement, ça m'amène à parler du guide qui est à l'attention des professionnels. Donc, on voit bien que ce guide a été un travail important pour sensibiliser, faire connaître. Vous avez travaillé là-dessus.
Oui, tout à fait. Il y a quelques années, effectivement, lorsqu'on avait rencontré le premier groupe de femmes qui avaient vécu de la coercition reproductive, on avait questionné vers quelles ressources elles s'étaient tournées, quel genre de soutien elles avaient eu. Et malheureusement, bien peu avaient eu du soutien. Donc, lorsqu'elles allaient dans différentes cliniques, en fait, le dialogue était inexistant ou alors c'est un dialogue de sourds, en fait. Et donc, on a décidé, avec le soutien financier, on va le mentionner, du secrétariat à la condition féminine, de créer deux brochures. Donc, une qui s'adresse au personnel soignant pour les informer sur ce que c'est la coercition reproductive, pourquoi c'est important qu'ils et elles en parlent avec toutes les femmes qu'ils reçoivent dans leur bureau. Mais qu'est-ce qui peut être mis en place aussi facilement, des interventions brèves qui ont été démontrées efficaces dans des recherches aux États-Unis pour soutenir ces femmes-là. Et en contrepartie, on a aussi fait une petite brochure qui, je crois, seront disponibles, ou en fait, les liens vont pouvoir être mis sur votre page Facebook, c'est ce qu'on nous a dit, qui permettent aux femmes et aux personnes aussi qui peuvent devenir enceintes, donc de s'interroger en fait sur le caractère de leur relation pour voir s'il y aurait peut-être de la coercition reproductive. Donc, c'est un guide qui les amène à se poser différentes questions puis à évaluer différents aspects de leur relation. Donc, c'est un guide tout simple, celui qui est destiné aux femmes. Celui qui est à l'intention des professionnels de la santé est un peu plus costaud. Et on l'a présenté dans différents milieux, à différents professionnels. Il a été très bien reçu. Je sais aussi que des gens dans des CIUS sont partis de ce guide-là et ont élaboré une formation eux-mêmes pour les membres à l'interne. Donc, on est très, très contents de cette diffusion-là.
Je l'ai lu, puis il est très bien vulgarisé. Et puis, une bonne conscientisation, parce que je disais aussi, quelque part, il y a une femme qui avait été voir son médecin, et puis elle en a parlé. Puis même le médecin lui a dit, ben non, c'est pas très grave, on va quand même aller voir si t'as rien attrapé, ou bien si... il n'y a pas de gros sexe, etc. Mais c'est de là, c'est de changer aussi le langage lorsqu'on parle de ça, de donner l'importance. Donc, je trouvais que, en tout cas, le guide est très bien fait là-dessus. Il est distribué à tous les professionnels ou les professionnels...
En fait, maintenant, il n'est plus... les brochures papier, on en a fait imprimer beaucoup lors de l'élaboration de ce guide-là. Et je dois le mentionner, c'est un guide qui a été réalisé en partenariat aussi avec des organismes communautaires, avec plein d'infirmiers, infirmières, médecins qui ont commenté aussi les différentes versions. Donc, il y a eu un gros travail d'aller-retour pour que ça réponde vraiment à leurs besoins. Mm-hmm. Maintenant, nous, on n'est pas un centre de distribution de ces brochures-là. Donc, on a maintenant rendu ça disponible en format PDF sur différents sites web. Donc, par exemple, celui de la FQPN, qui est la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Et les gens peuvent aller le consulter, le télécharger à cet endroit-là.
Mm-hmm. D'accord.
Et d'ailleurs, le livret destiné aux femmes, justement, il a aussi été réfléchi comme un outil d'introspection. Donc, c'est un livret qui pourrait être lu par tout le monde, en fait, et qui est un exercice vraiment pertinent à faire une fois de temps en temps par rapport à notre relation, se poser des questions à savoir si la relation répond encore à nos besoins, si la contraception, c'est un enjeu qui ne suscite pas de tensions ou de conflits. Oui. Et aussi toute la question de la reproduction. Là, on sait qu'il y a quand même une pression sociale qui est mise autour des femmes pour qu'elles deviennent enceintes. Donc, c'est aussi l'occasion de se questionner, de prendre le temps de voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est un livret destiné à tout le monde, j'ai envie de dire.
Oui, oui. J'aimerais qu'on discute un petit peu de l'aspect illégal de la coercition reproductive. On en a parlé un petit peu au début, mais rapidement. C'est de dire qu'au niveau de la Cour, actuellement, il y a plusieurs cas, mais qui ne sont pas, en procès, etc. Mais il y a des plaintes de déposer. Puis moi, ce qui m'a interpellée, c'est que il y a un cas qui a eu quand même des résultats. Donc, c'est un homme qui a plaidé coupable à une agression sexuelle pour retrait non consensuel d'un condom, mais lors de services sexuels moyennant rétribution. Puis ça m'avait frappée parce que, bon, il y a eu comme 90 jours, c'est pas beaucoup, mais ça a été quand même, on a eu des résultats. Puis qu'est-ce que ça vous dit, le fait que cette cause-là a eu quand même des résultats par une détention de 90 jours, mais c'était un acte où cette personne, ce monsieur, avait payé. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous interpelle?
C'est une bonne question. Je...
Ben, en fait, la criminalisation de ce type de geste-là, on est vraiment au début. Donc là, ça s'est passé dans cette situation-là. On peut quand même, bon, collectivement, se poser des questions sur ce cas-là en particulier. Mais de façon plus large, probablement qu'on va voir de plus en plus de cas se faire judiciariser, notamment avec l'implantation des tribunaux spécialisés au Québec en agression sexuelle, notamment. Donc peut-être que ça serait dans ces instances-là qu'on pourrait voir davantage de judiciarisation. Ensuite, nous, on est formés comme sexologues, travailleurs sociaux.
Oui.
Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la question de la sensibilisation, de la prévention. En des termes de criminalisation, c'est moins notre champ, mais moi, je suis persuadée qu'on va voir de plus en plus de cas, notamment avec le jugement qui a été fait de la Cour suprême du Canada. Là, il y a un peu une suite logique qui devrait s'opérationnaliser dans les prochaines années à ce sujet-là.
Oui, parce que pourquoi je posais cette question, c'est que en fin de compte, la coercition reproductive, elle est tellement courante, elle n'est pas simplement dans le fait qu'on a payé des services sexuels et là, ça aurait un aspect différent. Elle reste quand même problème.
Oui, puis non, parce que finalement, il y a eu un accord, que ce soit dans le cadre de services tarifiés ou non, il y a un accord entre deux personnes à l'effet de l'utilisation d'un préservatif. Et c'est ce à quoi la personne consent.
Oui.
Et le consentement n'est pas respecté. Donc après, c'est un contexte que vous évoquez. Mais finalement, ce qui est le plus important, selon moi, c'est surtout qu'il y a une personne qui décide de ne pas respecter le consentement d'une autre personne et qui, en plus, l'expose à divers risques pour sa santé physique, sa santé sexuelle, sa santé mentale, etc., sa santé psychologique. C'est ça que je pense qu'on doit retenir, surtout. Et puis, je rejoins beaucoup Catherine sur la question de la criminalisation. Nous, ce qui ressort d'ailleurs quand on demande aux femmes à la fin des entrevues leurs recommandations, eh bien les recommandations concernent davantage la sensibilisation, l'éducation sexuelle, la formation à qu'est-ce que le consentement, la formation à l'impact des violences, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose davantage en amont que dans quelque chose de punitif dans ce que les femmes, encore une fois, qu'on a rencontrées, recommandent en termes d'action et de... mise en œuvre finalement d'une plus grande conscience autour de la coercition reproductive.
Du phénomène puis des actes aussi posés.
Mm-hmm. Mais il faut quand même voir, je pense, ce cas-là comme une victoire finalement pour les femmes et pour faire cesser la banalisation de ce comportement-là. Oui, ce cas-là se produisait dans le cadre d'un travail tarifé. Mm-hmm. Par contre, comme Carole, Catherine l'ont mentionné, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation aussi. Donc, mm-hmm. c'est un premier cas, il y en aura fort certainement. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut ou doit porter plainte.
Oui, en effet. Mais déjà, c'est de faire comprendre que c'est une forme d'agression sexuelle. Donc, on vient de donner, en tout cas, toute l'importance sur ce phénomène. Et puis, de faire prendre conscience aux femmes aussi que... on parle d'agression sexuelle, même si ça se passe dans un cadre amoureux ou autre.
Oui, tout à fait.
Chers auditrices, auditeurs, nous allons vers une petite pause et nous retournons dans quelques minutes.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Donc, je suis toujours en compagnie de mes invités, mes expertes. Merci pour tout ce que vous nous dévoilez. Donc, alors, Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'UQAM. Catherine Rousseau, coordonnatrice du projet Relations, contraception et reproduction au laboratoire de recherche de la santé reproductive et la violence à l'UQAM. Et Carole Boulepsol, auxiliaire de recherche également au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et la violence à l'UQAM. Alors, Tout de suite, je vous pose la première question, Carole. Vous avez un projet de recherche qui est très important, donc j'aimerais ça que vous nous en parliez.
Alors, je mène une thèse qui, initialement, souhaitait s'intéresser particulièrement à l'expérience des femmes racisées et immigrantes. C'est donc ce projet s'insère dans le plus grand projet qui est dirigé par Sylvie Lévesque. Et finalement, on voulait, comme je le disais tout à l'heure, avoir une plus grande diversité de femmes. Alors, dans notre recrutement, on a mis en place différentes stratégies. Et alors qu'on sait que la littérature scientifique, notamment américaine, nous rapporte, comme je le disais tout à l'heure, des plus grandes fréquences, des plus grandes sévérités chez certaines populations racisées, notamment les femmes afro-américaines, eh bien, c'est aussi des populations qui sont difficiles à rejoindre dans les recherches, pour toutes sortes de raisons. Notamment la peur d'être stigmatisée, le racisme systémique, le fait aussi qu'il peut être difficile parfois de rapporter des événements qu'on a vécu au sein de sa communauté au risque de malgré soi contribuer à une image négative de la communauté ou bien d'anticiper ou d'avoir peur d'être rejeté par sa communauté si on dévoile une expérience de violence qui a été commise par un homme qui appartient à la même communauté. Cela étant, on avait vraiment un souci là d'aller documenter aussi ce qui se passait en dehors des environnements qu'on pourrait qualifier de majoritaires, donc blancs, classe moyenne, québécois, nés au Québec, etc. Notamment parce que, là encore, la littérature américaine nous montre que dans ces contextes-là, eh bien, il y a aussi la famille au sens large, dans ces contextes et dans d'autres contextes. La famille au sens large, notamment les femmes âgées qui peuvent avoir un contrôle social sur la reproduction ou les prises de décision, en tout cas en matière de reproduction. Donc, il y a des recherches notamment de Rodland et Walker qui vont dans ce sens-là. Or, on a commencé donc à faire notre recrutement. Je ne dévoile aucune surprise pendant la pandémie. Oui. Donc ça, c'est un premier obstacle. On connaît les difficultés de concertation, conciliation travail-famille pour les femmes. C'est difficile aussi de prendre du temps pour partager son expérience, etc. Donc, on a eu beaucoup de difficultés alors qu'on aimerait vraiment rejoindre des femmes dans leur diversité. Donc, comment va le recrutement? Ça va pas trop mal, mais on aimerait rencontrer davantage de femmes avec des parcours divers et avec aussi des univers culturels qui ne sont pas forcément ceux de la majorité, de manière à mieux comprendre comment dans d'autres contextes culturels, ethnoculturels, on investit ces questions-là et comment les femmes vont s'organiser pour aller chercher du soutien, pour faire du sens avec l'expérience qu'elles ont vécue. Donc dans ce sens-là, là, on travaille fort pour rejoindre des femmes, encore une fois, immigrantes, racisées, mais aussi des personnes trans, aussi des personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, de vraiment essayer là, d'avoir ce qu'on appelle un échantillon, si vous voulez, qui soit diversifié.
Oui. Donc, alors, on fait un appel à ces femmes-là. Puis, comment, pour vous rejoindre, ce serait de quelle façon?
Alors, merci de me poser la question. sur la page Facebook de votre émission, on va laisser nos coordonnées. J'aimerais rappeler que participer à une entrevue de recherche, c'est sur une base volontaire. Donc, à tout moment, on peut décider de se retirer de la recherche. On ne participe pas sous pression, ni par contrainte. Ça dure 1 heure à 2 heures. Ça peut être en présence ou en ligne. C'est totalement confidentiel. C'est anonyme. Et pour reconnaître le temps que les participantes prennent à nous rencontrer, eh bien, on leur propose une compensation financière de $30 qu'elles reçoivent, qu'elles aient fini ou non l'entrevue. Et pour participer, pardon, il faut être âgé entre 18 et 55 ans, parler français ou anglais, être disponible pour un entretien et se reconnaître dans une situation où un partenaire ou un membre ou une membre de notre entourage, donc ça peut être collègue, ami, on a des cas où c'est des amis qui ont exercé de la pression, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les grands-parents, etc., ont eu un de ces trois comportements-là. Donc empêcher d'utiliser une méthode de contraception correctement, mis de la pression ou menacé pour que la femme devienne enceinte alors que ce n'était pas son souhait, ou bien mis de la pression ou forcé à mettre fin à une grossesse ou encore à la poursuivre alors que là encore ce n'était pas son souhait. Donc si on se reconnaît dans ces expériences-là, eh bien on peut participer à notre recherche. Et donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, il y a le numéro de téléphone et l'adresse courriel qui sera indiqué sur le site de
votre
émission.
Tout à fait, on va faire le suivi. Donc merci Carole. Alors dans tout ça, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est alors l'entourage de la femme. Quelle attitude qu'elle devrait avoir lorsque la femme décide de faire son dévoilement?
Bien, en fait, plus on parle du sujet, plus on se rend compte, justement, comme vous l'avez nommé, on s'intéresse aux expériences autour de nous, puis on mm-hmm. voit que ça concerne plusieurs femmes. Donc, ça pourrait, en fait, vous pourriez recevoir comme individu un dévoilement de coercion reproductive ou de retrait non consensuel du condom. Et ces situations-là peuvent parfois être attachées à des préjugés. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Oui. On attribue beaucoup de responsabilités, en fait, aux personnes victimes, ce qui est tout à fait problématique. Donc, quand on reçoit un dévoilement d'agression sexuelle, de coercion reproductive, retrait non consensuel du condom, c'est très important d'être dans une attitude de non-jugement. La personne peut ressentir beaucoup de honte, de culpabilité, de justement tous les effets de ces préjugés-là qu'on entend dans le discours social. Donc, c'est important de recadrer, de dire que c'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas seule, que des ressources sont disponibles pour elle. Donc, comme personne qui reçoit un dévoilement, c'est très important ce qu'on va dire. Puis justement, les femmes qu'on rencontre dans nos recherches nous relatent un peu des commentaires problématiques qu'elles ont reçus, mais aussi des commentaires bienveillants qui ont fait toute la différence dans leur parcours. Et on voit que ces femmes-là, parce qu'elles se sentent soutenues par leur environnement social, sont aussi plus à même d'aller chercher des services parce qu'elles ont confiance, en fait, que leur histoire, elle est problématique et que leurs besoins sont légitimes. Donc, c'est tout à fait important d'offrir un soutien dans le non-jugement.
Oui.
Oui, Sylvie. Oui, non, tout à fait. Catherine a très bien résumé la situation. En fait, dans les témoignages qui nous ont été partagés, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas nécessairement à mettre des mots sur ce qu'elles avaient vécu, mais elles se sentaient sales, elles se sentaient violées et elles avaient le goût de le partager avec les membres de leur entourage, leurs amis, mais des fois, on n'a pas nécessairement les mots pour le dire et quand les gens autour de nous vont avoir une attitude un peu plus de jugement ou dire « oui, mais t'as un peu couru après, mais c'était un peu de ta faute, non? » ou « t'avais peut-être pas besoin de coucher avec lui la première fois, par exemple. » ça va avoir un effet extrêmement important sur la suite de l'histoire de la personne parce qu'elle va internaliser, justement, la honte, la responsabilité, alors qu'on sait que ce n'est pas sa faute. Que tu aies couché avec une personne la première fois ou pas, ça t'appartient et ça ne veut pas dire qu'il avait le droit de retirer le condom. Donc, je pense que c'est ça. Si on peut s'appuyer sur ce que Catherine nous a présenté, d'être dans le respect, d'être dans la bienveillance, d'être dans le non-jugement, votre attitude va vraiment, tu sais, vos autorités vont vraiment avoir un impact important sur la suite de l'histoire.
Donc, c'est un message en même temps là, pour les gens qui, chacun de nous, hein, qui peuvent recevoir cette confidence, donc de donner autant d'importance. Ça m'amène maintenant à savoir, et la suite pour vous? Donc, vous êtes dans cette recherche, dans ce discours, dans cette aide, l'entraide et tout ça. Donc, quelle serait la suite?
Alors nous, Marjorie, on a plein de projets. Alors, dans la suite de ce grand projet-là, une fois qu'on va avoir terminé les analyses plus quantitatives, donc les données, les chiffres et les témoignages, on va vouloir se lancer dans une portion plus créative de campagne de sensibilisation. Donc, web, documentaire, bande dessinée, je sais pas, on verra ce qui va être là, ce que les personnes vont nous dire qu'elles ont le goût d'avoir et d'utiliser. Sinon, on a aussi un autre gros projet qui débute sur les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, c'est un projet qui vient d'être financé pour un demi-million pour les trois prochaines années et dans lequel on va vouloir faire un état de la situation un peu au Québec. Quel genre de soins les femmes et les personnes qui ont des services gynécologiques et obstétricaux reçoivent, mais quelles sont leurs attentes aussi vis-à-vis ces soins-là? Et donc, on va rencontrer un échantillon important de femmes pour qu'elles nous parlent de ces soins-là qu'elles ont reçus, mais on va rencontrer aussi du personnel soignant pour voir quelles sont leurs réflexions sur les soins qui sont donnés et comment eux voient aussi les possibilités d'améliorer leurs pratiques. Donc, c'est en fait une continuation, ou c'est dans la même lignée, je vous dirais que la coercition reproductive, on sort un peu du caractère intime, donc perpétré par le partenaire intime, mais on demeure dans la sphère des violences et de la santé reproductive, comme les travaux qui se mènent dans mon laboratoire de recherche.
Alors, beaucoup de pain sur la planche. Alors, je rappelle que aussi le projet de Carole Boulet-Sol, donc le projet de recherche, alors un appel aux femmes racisées pour ce projet-là. Donc, tout va être sur notre Facebook. Alors, on est déjà à la fin de notre émission. Donc, merci, mesdames. C'est sûr que ce n'est pas un sujet facile, mais vous avez aidé à mieux comprendre et puis à mettre vraiment une importance sur ce phénomène. Alors, je rappelle le nom de mes invités, qui ça a été très agréable, avec Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'UQAM, Catherine Rousseau, coordonnatrice du projet Relations, contraception et reproduction au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM, et Carole Boulet-Sol, auxiliaire de recherche, également au laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences à l'UQAM. Donc, ceci met fin à notre émission. Merci, merci mesdames. Merci à toute mon équipe aussi, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup.
Merci.